L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Il est 7h30, ce 12 décembre 1922. Il pleut à Paris. Simenon descend du train de nuit, terminus, en gare du Nord. Ce train international est déjà en roman. Il vient de Riga, passe par Berlin, où l'on accroche les rames de Varsovie, puis Cologne, Liège-Guillemin, Charleroi. Il a mauvaise réputation. On raconte qu'il est peuplé d'arnaqueurs, de faussaires, d'assassins en fuite, de femmes blondes et fatales. Trajet abrutissant pour un Simenon affalé sur la banquette. Les reins cassés par les cahots, il pose le pied sur le quai, se perd dans le labyrinthe des 28 voies. Pour lui, mais il l'ignore, c'est son heure H. Il a 19 ans, vient de quitter définitivement son Liège natal, vient de couper le cordon ombilical. Adieu la vie étriquée, le boulot de petit journaliste de province. Il le dit, l'écrit, le répète. Chez lui, sa place n'existe plus. À Liège, depuis longtemps, il souffre de cette médiocrité. Il l'a dit à sa mère, il n'y a que deux sortes de gens sur Terre. Les fesseurs et les fessés. Et il préfère être du côté des fesseurs. Dès qu'il s'est mis à écrire, il a toujours voulu quitter Liège. Et pour s'expliquer, il évoque le football. Il faut choisir la ligue dans laquelle on joue. Ou on joue en ligue locale, provinciale, nationale ou internationale. Et lui, en choisissant Paris, eh bien il a choisi l'international. Oui, mais voilà. Voilà, Paris lui paraît morose. La gare du Nord est glauque sous sa verrière. Il marche dans la pluie et la boue, comprend que Paris est pétillant quand on vient y faire la fête ou du tourisme. Mais qu'il est désespérant quand on y cherche du boulot, qu'on a peu en poche, qu'on a peur de devenir raté. Et c'est son cas. Il fait froid, les hôtels sont trop chers, il ravale son cafard. Son imperméable prend l'eau, sa valise est minable. Son estomac est crispé. Tout ça, finalement, est minable. À commencer par l'hôtel de la Bertha, au Batignolles, où il trouve enfin une chambre sous les combes. 75 francs, pas de chauffage. Mobilier sommaire. Il a faim. Pas seulement des 10 croissants qu'il dévore au bistrot du coin. Non. Non, sa vraie faim, c'est son appétit de vivre, sa boulimie de devenir. Son désir de réussite, sa quête de femme, sa gourmandise de plats bon marché, sa soif de vin du terroir, sa fringale de contact avec les couches populaires. Immédiatement, il absorbe, s'approprie Paris. Il s'en imbibe, tel une éponge. Mais quel Paris ? Il est seul au monde, vient d'arriver dans un Paris qu'il ne connaît pas, où la richesse s'étale ostensiblement. Deux choses le frappent. La richesse d'une part, et de l'autre, la pauvreté. Et il est du mauvais côté. Pourtant, il perçoit très vite que ce Paris des années folles bouillonne comme un volcan. Et il va y brûler sa fureur de vivre. Les Américains allument leurs cigares avec des billets de 1 000 francs. Les musiciens noirs font de Montmartre une capitale du jazz. Les gigolos dépouillent les riches dames entre deux tangos. Le succès fulgurant du roman La Garçonne en libère d'autres qui portent des cheveux aussi courts que leurs robes. Et au bois de Boulogne, la police des mœurs n'arrive plus à réprimer les partouzes d'une certaine jet set. Comment survivre ? Lui qui n'est qu'au pied du volcan, d'autant qu'il ne sait faire qu'une seule chose, écrire. Il espère continuer ce qu'il faisait à la Gazette de Liège, à savoir écrire pour les journaux. Il fait le tour des rédactions, c'est un échec. Les rédactions sont combles. On n'engage pas. Découragement, d'autant qu'en mars de l'année 1923, c'est prévu, il épouse à Liège sa Régine, une artiste peintre qu'il appelle sa Gigi, et pas encore sa Tigui. Elle aussi veut faire carrière à Paris. Et qui va faire bouillir la marmite ? C'est la raison pour laquelle il est arrivé à Paris le premier. Tant pis s'ils doivent tout de manger de la vache enragée. Premier regard sur la capitale. Il chemine des heures durant. Renifle chaque atmosphère, bouquine au quai Malaquais. Il se sent bien. Déjà, il sait qu'il va rester. Mais pas de lyrisme. Pas d'admiration historique pour les monuments et les musées. Pas de tourisme. Son seul but, commencer la lutte sur le champ. Le jeune Simenon serre les dents, calme son ambition, l'écrit à sa fiancée 10 jours après son arrivée à Paris. « J'arriverai très loin pour des tas de raisons. Parce que j'ai une confiance sans bornes. Parce que je n'hésite pas à entreprendre des choses invraisemblables. Parce que je trime sans arrêt. Parce que j'ai beaucoup de talent. Parce que mon art est infiniment personnel. » Alors oui. Oui, il serre les dents. Oui, il trime. Oui, il est déjà Simenon. Dans sa soupente, il s'essaie à écrire des petits contes, des récits coquins, exotiques, érotiques, surtout sentimentaux. Des histoires à l'eau de rose pour midinette et concierge rêveuse qu'il vend à diverses publications. En même temps, il devient le secrétaire d'un marquis misogyne qui le traîne d'hôtel particulier en château dans la campagne française. Dans cette France profonde, il enregistre tout, comme il a absorbé Paris. Dans ce cœur de France, il fera naître Maigret, plus tard, bientôt.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye. L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui, dans l'heure H, je vous raconte comment le jeune Simenon devient un des plus grands écrivains du XXe siècle. Il arrive dans ce Paris des années folles, avec comme seul bagage son ambition dévorante et son courage. Il a foi en son talent d'écriture, mais les débuts sont difficiles. Et pour le moment, l'écriture est une question de survie. Désormais, il va se consacrer à publier des romans populaires, un peu plus épais, un peu mieux construits. Les éditeurs sont preneurs à cette époque. Des milliers de mots, des centaines de phrases pour survivre, faire sa place au soleil. Emménager ailleurs avec Régine, devenue son épouse. Mais Simenon est un impatient. Leur appartement modeste de la place des Vosges lui paraît déjà trop étroit. En 1928, pour une bouchée de pain, il achète une coquille de noix, un ancien canot de 5 mètres de long. Moteur, 2,5 chevaux. À bord de ce ginette, Régine, lui et leur servante Boule vont faire le tour de France par les rivières, fleuves et canaux. 6 mois de navigation, 3000 kilomètres de France heureuse vue du côté de l'eau. Des tas d'endroits, de paysages, d'atmosphères, d'écluses, d'auberges où il campera plus tard son commissaire. Bientôt, très bientôt. À bord de sa coquille de noix, chaque matin aux aurores, il écrit. Et un matin de printemps ou de l'été 1928, amarré sur la Saône à Lyon, au pied du Fort Saint-Jean, une inspiration va surgir. Comme à son habitude, Simenon s'est levé tôt. Il s'installe devant sa machine à écrire. Mais voilà que soudain, les mots qui frappent le papier prennent une autre densité. Une lourdeur inhabituelle. Est-ce à cause du brouillard épais qui traîne son spleen sur la Saône ? Est-ce parce que Simenon a enfin fait le choix d'évincer de plus en plus dans ses romans populaires les héros charmeurs et stéréotypés à la Arsène Lupin ? Ressent-il le besoin de créer des personnages plus profonds, à la carrure plus humaine ? Est-ce simplement parce qu'il a 25 ans ? Toujours est-il que ce matin-là, dans un roman pourtant sentimental titré « L'amant sans nom », apparaît sous ses doigts une silhouette trapue. Pesante, à l'air butée, à la démarche obstinée. Qui plus est, ce nouveau personnage est un policier. Et en plus, il fume la pipe. Oh, certes, il n'est qu'un comparse, il n'est que de passage. Il se nomme N49. Il n'est pas encore Maigret. Mais il en est l'esquisse. N49 est déjà à son image, avec sa patience souveraine, son obstination, son flegme, et sa bouffarde qu'il garde entre les dents. Simenon approfondit sa personnalité. « On dirait, écrit-il, qu'il ne voit pas les choses et les gens, mais qu'il voit à travers. » Ainsi naît la première silhouette de son futur héros. Mais ce personnage mineur est fugace. Son nom de code le rend anonyme. À ce moment, bien sûr, l'apprenti littérateur ignore que ce N49 aura une descendance. Patience, car l'année suivante, En juillet 1929, paraît un autre roman Fleur bleue, Une ombre dans la nuit, sous le pseudonyme de Georges Martin Georges. Le récit est ancré au bord de la Garonne, à Saint-Macaire. Il surgit à la page 30 un docteur nommé Maigret. Qu'importe si son rôle se borne à une consultation médicale, à un diagnostic, à une ordonnance rédigée avant de prendre congé. Qu'importe si après 3 pages, il disparaît. Qu'importe. Maigret est déjà en gestation. D'autant que le patronyme du docteur ne s'est pas imposé à Simenon d'une manière anodine. Le Liégeois tient à rendre un hommage sympathique à un homme qui ne l'est pas moins à ses yeux. Dans son immeuble de la place des Vosges, il croise très souvent un certain Paul Maigret, médecin laborantin, avec qui il fraternise, d'autant qu'ils promènent tous les deux leurs chiens dans le square et qu'ils se passionnent pour les bateaux. Maigret, un médecin? Bien évidemment, le personnage se précise. Quand Maigret sera devenu un protagoniste à part entière, Simenon nous le présentera comme un homme qui, avant de rentrer dans la police, a commencé des études de médecine, mais a dû les interrompre à cause du décès de son père. Le lecteur comprendra très vite que Simenon le considère comme un médecin de l'âme, un raccommodeur de destinée, un policier à l'écoute des destins brisés ou déviés. Maigret n'aura-t-il pas comme seul ami le docteur Pardon, avec qui il entretiendra des complicités étroites, des intelligences presque fraternelles? Donc d'abord un policier corpulent et fumeur de pipe, qui se résume à 2 chiffres. Ensuite, un docteur nommé Maigret, et toujours chez Simenon une ambition de sortir des poncifs des romans populaires pour construire des personnages d'envergure qui ont une présence. À ce stade, Simenon reste prudent. Il rédige quelques Maigrets sous pseudonyme. Il essaie sa créature, peut-être pour se faire la main, sûrement afin de voir si elle est en mesure de donner vie à un policier plausible, tangible. Nous sommes en 1929. Simenon aborde l'étape essentielle de sa vie de romancier. Depuis le mois de février, il navigue et vit enfin sur son propre bateau, un cotre de 10 mètres qu'il s'est fait construire à Fécamp, l'Ostrogoth. Après la gestation de Maigret, voici l'accouchement. Sa vraie naissance se produit loin de France, alors que l'Ostrogoth est amarré dans un port à la pointe septentrionale des Pays-Bas. Écoutons Simenon. J'étais allé chercher la tranquillité à bord de mon bateau, de même que les belles mesdames vont accoucher dans leur château du Loir-et-Cher. Et là, tout en cassant la glace, je m'étais maigré au monde, avec joie, avec amour. C'est dans la province de Groningen, au nord de la Frise, qu'a lieu cet accouchement. Dans un décor du nord, les maisons de briques rouges ont le style scandinave. Il y a la mer, un canal, des brumes et des embruns, de rudes marins en sabots. Ça sent le hareng, le bitter, et puis le bol qu'on sert dans des estaminets aux tables ripollinées. En juillet ou septembre, Simenon relâche dans ce port de Delfzijl, car son bateau nécessite un sérieux recalfatage. Halte technique et forcée. Et choix définitif. Non, cette fois, c'est décidé, il veut quitter le registre des récits populaires pour accéder à un genre semi-littéraire, comme il le nomme, à savoir le récit policier. Écrire à bord de son cotre, impossible. Le bruit des marteaux des calfas est assourdissant. Alors il se choisit une barge qui prend l'eau sur un canal en eau morte. Il y pose 3 caisses, une pour lui. Une autre pour sa machine à écrire. Une troisième pour la bouteille de vin. De temps à autre, il pousse la porte d'un café aux tables polies à l'huile de lin, se réchauffe à coups de petits genièvres colorés de bitter. Aidé par l'alcool, quelque peu somnolent, il commence à entreapercevoir la carrure puissante, la démarche impassible d'un monsieur qui, lui semble-t-il, ferait un commissaire fort acceptable et surtout aurait l'autorité d'un vrai meneur d'enquête. Reparti dans sa barge, il va ajouter au bonhomme quelques accessoires. Une pipe, un chapeau melon, un épais pardessus à col de velours. Et comme Simenon grelotte dans sa barge, il lui accorde pour son bureau du 36 quai des Orfèvres un vieux poêle à charbon qu'il tisonne à n'en plus finir. C'est donc sur l'eau d'un canal dans les brumes d'un nord lointain et dans une atmosphère de bistrot que n'est vraiment Maigret. Cela va conditionner déjà les propres attirances du policier qui se sent plus à l'aise dans un port tempétueux ou une auberge de marin que dans un palace des Champs-Élysées. Ce premier vrai Maigret, signé Simenon, porte un étrange titre, Pitre le Laiton. En l'écrivant, il est animé du désir de créer un policier français, mais bien français, c'est-à-dire simple et humain, honnête et travailleur. Ne mettant pas son orgueil à réussir des mots croisés, ni à bondir par-dessus les meubles, ni à assommer ses plus terribles adversaires d'une chiquenaude. Donc, un Maigret qui n'a ni l'élégance d'Arsène Lupin, ni la loupe de Sherlock Holmes, ni les petites cellules grises d'Hercule Poirot. Sherlock Holmes est théorique, Maigret est vivant, dira-t-il plus tard. Mais rien n'est gagné. Encore faut-il proposer son personnage à un éditeur. Encore faut-il cesser d'écrire sous des noms d'emprunt pour pouvoir enfin signer de son vrai nom. Encore faut-il lancer les Maigret par un événement sans précédent. Il va d'abord proposer Pitre le Laiton à Artem Fayard, qui, depuis 1927, a édité pas mal de ses romans bon marché. La réponse de Fayard est glaçante. « Je veux bien essayer, mais ça ne prendra pas. Pas de problème policier strict. » Pas d'amour, pas de personnage sympathique ni de vilain, pas de fin heureuse. Ce sera un four. Fayard rechigne, interroge ses libraires, aucune chance de succès. Pour Simenon, c'est la douche froide. En mai 1930, prudent, l'éditeur accepte toutefois de publier Pitre le Laiton en feuilleton dans un hebdomadaire qu'il dirige. Mais il exige de Simenon encore des populaires et quelques Maigret pour se faire une idée. Simenon est découragé, effondré. Insomniaque, il tombe en dépression. Une fois de plus KO debout, il fait face, serre les dents et il trime. Il sait qu'il a mis le meilleur de lui-même dans le personnage de son commissaire. Maigret vit en lui. Il le voit comme un personnage de chair, connaît le son de sa voix, l'odeur de son vieux chandail, jusqu'à la pointure de ses souliers. Quand il écrit, il sent qu'il est à ses côtés en train de fumer sa pipe. C'est comme si tous deux se faisaient confiance. Dans Pitre le Laiton, Maigret n'est plus une silhouette. Il a déjà une vie à lui, ses habitudes, sa météo préférée, sa carrure massive, son bureau au 36 quai des Orfèvres. Déjà, il est entouré de ses inspecteurs fétiches et choyé par une épouse excellente cuisinière. Le roman se déroule dans une géographie chère à Simenon et qu'affectionnera Maigret. Les petits matins, les gares enfumées, les garnis sordides du marais, les ports pluvieux, les nuits de Pigalle. Déjà le commissaire à sa table à la mythique brasserie Dauphine, inspirée par la bien réelle brasserie aux Trois Marches, près de la place Dauphine. Qui plus est, il a déjà sa méthode. Elle consiste à s'immerger au cœur de l'enquête, de humer le milieu social et le décor en attendant de découvrir la fissure chez le suspect. Cela ne l'empêche pas d'agir comme les autres flics, faire appel aux experts, aux compétences de la police scientifique de l'époque, aux techniques que les Bertillons et les Locard ont mis entre les mains des enquêteurs. Mais sa conduite est parfois atypique. Il lui arrive de frauder la justice. Au dénouement de Pitre le Laiton, il laisse traîner son revolver dont s'emparera l'assassin pour se suicider. Dans Maigret chez les Flamands, il libérera une jeune femme qu'il sait coupable d'un meurtre à coups de marteau. Voilà un comportement qui aurait dû lui attirer de sérieux ennuis avec l'IGS, l'Inspection Générale des Services, créée dès 1914. Fayard n'a pas saisi la richesse humaine que Simenon a enfuie dans Pitre le Laiton. Il se décide toutefois à lancer la série des Maigret en choisissant deux autres titres, Monsieur Gallet, décédé, qui se déroule sur le Loir, et Le Pendu de Saint-Folien, centré sur Liège.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye. L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui dans l'heure H, je vous raconte l'histoire d'un écrivain hors norme. c'est sur l'eau d'un canal, dans les brumes d'un nord lointain et dans une atmosphère de bistrot, que Simenon crée son plus célèbre personnage, Maigret. Ce policier français bien français, simple et humain, honnête et travailleur. Mais il s'agit maintenant de le faire connaître. Mais comment lancer un personnage aussi atypique ? En bousculant les traditions littéraires parisiennes. D'abord, pas question de vendre les Maigret à 2 francs, comme les romans populaires, ni à 12 francs, comme un ouvrage littéraire, mais bien à 6 francs. Plus de dessins vieillots style polar en couverture. Non, à la place, Simenon exige un montage photographique réalisé par un professionnel. Pour le lancement des 2 premiers titres, Fayard et lui vont révéler leur vrai talent. Simenon d'abord. Avec Régine, il a découvert Montparnasse au cours de l'hiver 1925-1926. Une fête cosmopolite. Des rencontres artistiques électrisent le quartier. Les Simenon y ont croisé des bohèmes, des peintres, des romanciers, des jazzmen et des jouisseurs. L'apprenti romancier y a plongé dans tous les excès. De la coupole au dancing le jockey. Il est de toutes les bringues avec les noceurs américains, les petites baronnes qui se lavent les dents au Ritz en se rinçant au champagne, les mondaines qui finissent leur nuit au poste de police. Simenon y découvre aussi, rue Vavin, le bal de la boule blanche. C'est la star antillaise Alexandre Stelio qui l'a ouvert après la Grande Guerre. Dans l'odeur du rhum, il y popularise la biguine grâce à des danseuses très sexy, guère farouches et toujours souriantes. Dans un coin, un trio saxo-banjo-batterie fait danser tout ce beau monde de 21h à 2h du matin. Un Fayard médusé, c'est dans l'ambiance de cette boule blanche que Simenon propose de lancer la série des Maigret au cours de la nuit du 20 au 21 février 1931. Fayard ne va pas être de reste. Il intervient pour la moitié des frais et joue surtout son rôle d'éditeur. Il ameute la presse, annonce la parution des 2 Maigret dans la bibliographie nationale, fait lire à la radio des extraits des 2 romans, prévoit des affiches, demande à ses libraires de placer en vitrine des portraits de l'auteur et des agrandissements des photos de couverture. Il convoque la radio et même les actualités cinématographiques de la Fox Movie Tone. Qui plus est, éditeur et romancier adresse des milliers d'invitations manuscrites rédigées sur un fac-similé de la fiche de police du bandit Jules Bonneau. D'où le nom de la fête, le bal anthropométrique. Georges Simenon, Vertès, Paul Colin et Dunn ont l'honneur de vous inviter au bal anthropométrique qui aura lieu à la Boule Blanche, 32 rue Vavin, le vendredi 20 février à minuit. La tenue de soirée n'est pas de rigueur. Au cours du bal, Georges Simenon aura le plaisir de dédicacer ses 2 romans. À minuit, la foule se presse à la Boule Blanche. On étouffe, on s'enivre. Que du beau monde. Philippe de Rothschild, Kissling, Derain, Fujita, Colette, Francis Carco, Pierre Lazareff, Armand Salacroux, Marcel Achard, Kiki de Montparnasse, la chanteuse Suzy Solidor, fort dévêtue, Damia, qui à l'entrée laisse l'empreinte de ses lèvres, mais on croise aussi des danseuses nues ou hindoues, des petites garces, des peintres pompiers, des sénateurs, des milliardaires, des acteurs, des grues canailles et des mondaines. Au programme, bas la page comme au beau vieux temps des fortifs, murder party, déguisement, modèle nu et jolie fille. Une soirée rêvée pour Simenon. Dans un coin, il dédicace à tour de bras et lorgne au passage les corps café crème des danseuses créoles. Cette nuit de folie finira à 8h du matin, dans la rue, sous la pluie, ou à la coupole et au dôme. Il faut dire qu'il n'y a plus de champagne depuis longtemps et que le buffet a été promptement dévalisé. Qu'importe. Qu'importe si le lendemain une certaine presse ricane. Qu'importe si elle traite Simenon de romancier à vapeur, adepte du cirque et de la cage centrale. Qu'importe si elle croit que Fayard n'a pas été bluffé. Simenon s'en moque. Il a gagné. En une nuit, il est devenu Simenon et Maigret est connu. Une drôle de nuit, dira-t-il à son ami Carlo Rime, et pour moi un souvenir bouleversant, parce qu'en un seul coup, je jouais toutes mes cartes. Il vient d'avoir 28 ans. Est-ce ce jeune hédoniste noctambule, ce soi-disant romancier à vapeur, qui vient de créer un personnage de 45 ans, épanoui, indulgent, réfléchi? Un personnage qui, mais cela il l'ignore, va encore paraître dans 73 autres romans jusqu'en 1972. Un personnage qui va devenir une icône, une figure emblématique au rayon des polars. Se doute-t-il que son ombre lui collera toujours à la plume, du moins au clavier? C'est un sacré chic type, dira la deuxième Madame Simenon. Un policier tout en équilibre alors que son créateur tangue entre désordre existentiel et quête de l'harmonie. Le personnage est à l'opposé du romancier. Petit bourgeois, fidèle à son épouse, têtu et minutieux. Maigret mène une vie tranquille alors que son créateur réinvente sa vie à chaque minute. Simenon est libre et convulsif. Maigret est un fonctionnaire placide qui fait honnêtement son métier. Les deux hommes ont pourtant des points communs. Leur ambition commune est de connaître la nature humaine. L'un comme l'autre veulent savoir jusqu'où l'homme peut aller dans le bien ou dans le mal. En tant qu'enquêteur, Maigret a le droit de pousser chaque porte, d'entrevoir toutes les intimités, ce qui fait écho au voyeurisme inné du romancier. De plus, tous deux sont des éponges capables en un instant de s'imbiber du milieu, d'un lieu, d'un individu. Enfin, n'est-ce pas leur méfiance viscérale à l'égard de la justice, le besoin de comprendre et de ne pas juger qui les unissent le plus? Pour l'instant, écrire des romans policiers rassure Simenon. Il fait ses armes. Il y a un crime, une énigme, un enquêteur qui fuit partout. Il y a des règles, il y a des rampes, comme il dit. Il suffit de les suivre et le lecteur va jusqu'au bout car il veut connaître l'assassin et son mobile. Soyons-en sûrs, quand Simenon se confiera à un journaliste de l'ORTF, c'est en pensant à son Maigret qu'il avoue être fasciné par certaines personnes qui sont en parfaite harmonie et forment comme un noyau dans la foule. Quand on a un coup de cafard, quand on se sent en déséquilibre, quand on n'est pas sûr de soi, il doit être bien agréable de savoir qu'il y a des gens chez qui on n'a qu'à arriver pour se sentir tout de suite en fraternité. Au fil des premières enquêtes publiées chez Fayard, Maigret gagne en compacité. Son intimité, sa stature, son amour des hommes s'affirment au fil des romans. Si l'on veut d'une comparaison, Simenon travaille comme Rodin. Au fur et à mesure, il ajoute de la glaise, de l'épaisseur, des couches de vérité qui vont rendre le policier attachant, réel, presque vivant. En attendant, jusqu'en novembre de cette année 1931, il continue de naviguer sur son bateau l'Ostrogo. Il y écrit également. Et les titres s'enchaînent. Le chien jaune, la nuit du carrefour, un crime en Hollande, la danseuse du Gai Moulin, la guinguette à deux sous. Le 15 août, il s'amarre à Deauville et dédicace sur les planches à la terrasse du Bar du Soleil. Il surveille également ses ventes. Les messageries annoncent pour le seul mois de mars 178 exemplaires vendus de Monsieur Gallet décédé sur 260 déposés à la gare Saint-Lazare. 104 vendus sur 150 à la gare de l'Est. Simenon, romancier de gare? Le cliché est lancé. En octobre de la même année, sa réussite s'accélère. Le cinéaste Jean Renoir vient lui proposer d'adapter à l'écran La nuit du carrefour. Il en achète les droits pour 50 000 francs. S'ajoute, le 9 novembre, un chèque de 12 500 francs en règlement par Fayard de la version cinématographique du Chien jaune que Jean Taride tournera dans les Embruns de Concarneau. Cette fois, ces phrases vont naître dans les images du noir et blanc. Maigret va enfin prendre vie, bouger, parler. Simenon va pouvoir contempler ces atmosphères captées par une caméra, de l'écrit à l'écran. Autre raison de se réjouir, il signe un premier contrat de traduction avec l'éditeur américain Covici Fried Publishers pour 4 titres. Son commissaire va traverser l'Atlantique. Maigret va devenir inspecteur Maigret. Quelque temps après le bal anthropométrique, Simenon veut se rapprocher encore plus de son personnage. Content d'être lui, ne doutant de rien, il demande à visiter de fond en comble le siège de la police judiciaire de Paris, le mythique 36 quai des Orfèvres. Sa célébrité le précède. Le succès aidant, il ne manque pas d'assurance. Mieux, il en déborde. Ce qu'il ignore, c'est que du côté du quai des Orfèvres, on lit aussi les Maigret signés Simenon. Donc, le voici face au grand porche, sous la voûte gardée par 2 agents en uniforme. L'escalier est poussiéreux, les murs décrépits, les marches usées. Troisième étage, les bureaux de la célèbre PJ. Cette fois surgit l'émotion. Il entre dans l'univers réel de son Maigret. Des portes ouvertes, des hommes assis devant des téléphones ou des feuilles de rapport, des inspecteurs cigarettes au bec, une cuisse sur une table, la salle d'attente où poireautent quelques mines patibulaires entre deux flics. Plus loin, des enquêteurs en partance. Cela vit, cela bourdonne dans une franche camaraderie débraillée. Et au bout d'un couloir, le bureau de Xavier Guichard, le patron du 36 depuis avril 1930, qui l'accueille. Simenon est surpris par ses yeux malicieux et ses longs cheveux blancs de poète. Guichard le croit journaliste. Non, proteste Simenon, romancier. Guichard sourit. Il est vrai, une gamme infinie de sourires et une ironie perceptible. Pourtant, ce sexagénaire, qui le considère comme un hôte de marque, est une pointure. Simenon ne peut oublier que c'est lui, vêtu de noir, coiffé d'un chapeau melon, qui s'est dirigé seul sous les balles vers le pavillon où l'anarchiste Jules Bonneau tenait tête à une centaine de policiers. C'était en avril 1912, en compagnie de l'inspecteur Guillaume. Ses accrochages avec la hiérarchie sont célèbres. Son attirance pour le monde de la nuit aussi. Toutefois, son côté chien tenace, son goût pour les filatures et les planques font l'admiration de tous. Guichard est direct. Il veut montrer au jeune écrivain le fonctionnement des services et des policiers en chair et en os. Maigret, à ses yeux, est encore trop schématique. Guichard se dit désespéré par les erreurs qui entachent les premiers Maigret. Simenon encaisse, mais avec un petit sourire en coin. Ironique, le patron du 36 lui lance « Votre commissaire n'est pas très crédible. Il planque comme un inspecteur, enquête en dehors de sa juridiction. » Devant les incohérences administratives des premiers Maigret qu'il a lus, Guichard veut rectifier le tir, comme il dit. Dès lors, il confie le jeune écrivain à deux de ses hommes qui vont lui expliquer le métier et lui faire découvrir le vrai 36. Marcel Guillaume et Georges Massu. Simenon comprend que ces hommes vont influencer, enrichir, corriger le Maigret déjà créé. Le raccommodeur de destinée, que deviendra son personnage fétiche, prend ici une cohérence nouvelle au contact de Guillaume et de Massu. Simenon en ressent un choc violent. L'efficacité de ces hommes, leur travail acharné, leur spécialisation laisse en lui une trace indélébile. Il va faire son miel de tout ce qu'il voit, renifle et entend. Il sait qu'il va modifier Maigret. Du bloc massif qu'il était, il va faire un homme capable d'une incroyable plasticité qui lui permettra d'entrer dans la peau de la victime ou de son assassin. L'ambiance du 36 étonne Simenon. On est entre gens de métier. Les événements sont envisagés du strict point de vue professionnel, sans paroles inutiles. Surtout au cours du rapport quotidien où les chefs de service rencontrent leur patron sur le coup de 9 heures. Pas plus de 30 minutes, mais efficace. Chacun résume ses dossiers en cours, puis s'échappe et reprend le boulot. Impressionné, Simenon capte l'essentiel. Ainsi, c'est ici que se nouent tant de drames humains. Cette fois, il est face à de vrais flics. Pas les petits policiers de Liège où il allait pêcher des infos pour sa gazette. Pas son policier de papier nommé Maigret, mais des hommes de choc. Rodés aux interrogatoires impitoyables et à la lutte contre le crime et la violence. Ce qu'il veut voir en premier, l'antichambre. Pourquoi ? Demande Guillaume. Parce qu'il veut commencer par le chemin que les clients du 36 suivent d'habitude. Toujours le facteur humain. Même intérêt pour le célèbre dépôt, un véritable centre de tri. Là, il se trouve face aux individus arrêtés pour crime ou délit flagrant avant d'être transférés devant la justice. Simenon se frotte à la destinée humaine, devine les échecs, croise les regards de celles et ceux qui ont franchi la ligne. Matière sensible dans ces deux quartiers où hommes et femmes sont séparés dans les cellules où s'entassent prostituées, malfrats et gens ordinaires. Tous des futurs clients pour Maigret, tous. Toujours en quête d'inspiration, il interroge les inspecteurs sur les affaires dont il s'occupe à ce moment-là. Leur avoue que les tueurs professionnels ne l'intéressent pas. Leur psychologie ne pose aucun problème et n'a aucun intérêt à ses yeux. Ce qui le passionne, ce sont les autres. Ceux qui sont faits comme nous tous et qui finissent un beau jour par tuer sans y être préparés. Des futurs criminels dont s'occupera Maigret. À un certain moment, Massue évoque un certain docteur Paul. Pourquoi ne pas aller le présenter à Simenon ? Un petit saut à l'Institut médico-légal suffira. Compétent, facétieux, sympathique, épicurien, le célèbre médecin légiste Charles Paul est le roi du bistouri. Par la suite, il apparaîtra dans pas moins de 36 romans de Simenon. À l'issue de sa visite du 36, le romancier retrouve Guichard dans son bureau et ils se mettent à parler littérature. Sûr de lui, le jeune auteur précise l'originalité de ses Maigret. Jusqu'au début des années 1930, dans les romans français, à de rares exceptions près, le rôle sympathique a toujours été tenu par le malfaiteur, alors que la police se voit ridiculisée, ou pire encore. Comme dans Fantômas, comme face à Arsène Lupin. Voilà pourquoi son Maigret à lui est et demeurera un fonctionnaire comme Massue et Guillaume. Pourtant, le méthodique Guichard revient sur les erreurs techniques dont Simenon parsème ses récits. Le jeune écrivain sourit à nouveau. Et avec une pointe d'accent liégeois, il s'explique. Il sait que les Maigret regorgent de multiples invraisemblances. Il sait que dans une véritable enquête, un commissaire est entouré de 50 collaborateurs. Qu'il y a les inspecteurs, mais aussi la police, la gendarmerie, la surveillance des gares, des frontières. Il le sait. Mais comment introduire ce grouillement dans les 200 pages d'un roman ? Impossible. Alors, pour éviter la confusion, il suit un seul fil conducteur, celui qui dirige l'enquête, à savoir son Maigret. Au lieu de 50 inspecteurs grouillants en désordre, il n'en garde que 3 ou 4 avec une personnalité propre. Et un Xavier Guichard médusé mais séduit, il avoue « Je n'écris pas pour les quelques douzaines de fonctionnaires de la police judiciaire. » Ce qu'il cache à Guichard, c'est que Maigret n'empruntera pas tout aux vrais flics que l'écrivain a côtoyés. En lui demeurera toujours la part secrète où son créateur a mis des fragments intimes de lui-même, a même glissé l'ombre émouvante de son père décédé, lui qui comprenait sans juger. Cela n'empêchera pas l'épouse de Guillaume de déclarer plus tard que Simenon avait tout pris chez son mari. Après avoir remercié Guichard, Simenon, léger comme un homme devant son avenir, retrouve la scène avec ses bouquinistes et ses pêcheurs, ses remorqueurs qui sifflent en baissant leur cheminée sous les ponts. Les jolies femmes aussi sont là, devant lui, avec leurs robes qui fleurissent, qui donnent l'impression qu'elles ne portent rien ou pas grand-chose dessous. La vraie vie, elle est là. Il lui suffit de la brasser à plein cœur. Paris palpite. Le monde est à lui. Ses futurs personnages, il va les trouver dans ses passants qui passent et dans les gens qu'il va rencontrer. Au cours des 40 années qui vont suivre, il les dispersera de Paris à New York, de Nice à Bruxelles, de la Normandie à l'Arizona, des Charentes à Porquerolles, d'Istanbul à Libreville, de la rue Le Pic au canal de Panama. 192 romans, dont 75 Maigret, vont prendre vie sous ses doigts sur le clavier de sa machine à écrire. D'où vont-ils surgir ? De son imaginaire ? Il avouera n'avoir aucune imagination, ne pas être intelligent, préférer son instinct. Il dira qu'il ne pense pas au roman, mais qu'il le sent. Qu'il amalgame plusieurs personnes rencontrées pour en faire un seul personnage. Combien de personnages ? Plus de 9000, qu'il fera vivre dans pas moins de 1800 lieux différents de par le monde. Maigret va enquêter en France, en Belgique, aux États-Unis, aux Pays-Bas, sous le soleil ou sous la pluie. Mais le policier restera un homme amarré à son quai, au quai des Orfèvres, bien entendu. Simenon finit par s'éloigner sur ce quai qui deviendra mythique grâce à lui, ignorant qu'un jour la ville de Paris y placera un panneau annonçant siège de la police judiciaire, rendu célèbre par le commissaire Maigret. Décidément, l'ombre de Maigret continuera à planer sur le 36.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.